Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Les vraies voix avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Lydia Girous, essayiste, et Philippe Deveux, l'avocat. On va évidemment parler, ce sera notre grand débat, de ce qui s'est passé à la Chapelle-sur-Erdre en fin de matinée et début d'après-midi. Nos débats à 17h30, la France est-elle un pays dépressif? Oui, puisque évidemment, vous avez vu les statistiques, les consommations d'anxiolytiques, d'antidépresseurs ont explosé depuis le premier confinement. À 17h40, un sujet beaucoup plus léger entre deux sujets lourds. Aimeriez-vous voir Zidane venir entraîner en France, puisque depuis hier, il est libre de tout engagement envers le Real Madrid. Et enfin, à 18h30, notre grand débat, peut-on empêcher la libération des détenus radicalisés, puisque le terroriste abattu à Nantes, enfin à côté de Nantes, était fiché S. Il avait tenté d'agresser à l'arme blanche des policiers il y a à peine 3 mois, au mois de février. Vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux, bien évidemment. Bonjour à vous les vraies voix, bonjour Philippe Bilger.
Bonjour mon cher Philippe.
Bonjour Lydia Girous.
Bonjour Philippe.
Et bonjour Philippe Deveux, il y a beaucoup de Philippe, hein, désolé.
Beaucoup de Philippe ce soir.
Bonjour Philippe.
Eh bien écoutez, on va commencer.
Et Philippe derrière Zoom. Hein.
Ah ouais, Philippe qui est évidemment...
Oui, oui. Bonjour, bonjour Philippe.
Il est en travail d'un mot qu'il a mort.
Bonjour
et
Lydia.
Le
bonjour,
mot Philippe. Distanciel, ça c'est un mot que Philippe Bilger adore.
Oh, je déteste ce mot.
J'ai en horreur. Présentiel, c'est encore pire.
Ah pardon, présentiel. Non, oui, je ne savais plus lequel c'était.
C'est les mots Covid ça.
Absolument.
On ne peut voilà. plus les voir.
Absolument. Allez, on va attaquer par un tour de table de l'actualité.
Les vraies voix Sud Radio.
Et Philippe Deveul voulait nous parler de ce qui s'est passé aujourd'hui à La Chapelle-sur-Erdre, c'est juste à côté de Nantes. On écoute le son de l'assaut du GIGN contre le terroriste.
Oui.
C'est donc l'actualité du jour, la tentative d'assassinat sur une policière municipale de La Chapelle-sur-Erdre par un radicalisé qui a été abattu par les gendarmes. Le pronostic vital de la policière municipale est engagé et deux gendarmes ont été blessés. Philippe Deveul, c'était votre tour de table de l'actualité.
Oui, c'est un constat qui se répète et à mon avis qui va se reproduire. On est en guerre. On est en guerre contre l'islam radical. Et d'ailleurs, on a nos militaires qui sont en OPEX, au Mali, au Sahel, et nous avons des réseaux de la même espèce que l'on combat à l'étranger, qui sont ici, à l'intérieur du pays. Et donc, les bruits qu'on a entendus, ce sont malheureusement des bruits de guerre. Vous avez un assaillant qui a attaqué avec une arme blanche pour saisir l'arme de la policière municipale.
Qui l'a saisi.
Et puis, qui a blessé, évidemment, les gendarmes. Et les gendarmes ont riposté, et l'assaillant n'est plus. Bien. Que dire d'autre ?
Lydia Girous, quand vous entendez ce qui s'est passé aujourd'hui à La Chapelle-sur-Erdre, comment vous réagissez? Parce que quand même, apprendre qu'il était fiché, est-ce qu'il avait tenté d'attaquer à l'arme blanche des policiers au mois de février et qu'il était en totale liberté, on se dit que pratiquement c'est moins dangereux d'être fiché S et d'être en liberté que d'arriver 10 minutes après le couvre-feu, parce que là vous risquez 135 euros.
Ben, j'ai été consternée et en même temps je me suis dit bon ben voilà. C'est encore une actu dramatique qui s'enchaîne. Après Champigny, avec cette je ne sais plus le nom, et je vous prie de m'excuser, cette femme qui travaillait au commissariat et qui a été
à Rambouillet,
qui a été assassinée donc par un individu encore radicalisé. J'ai l'impression qu'il y a une accélération de l'actualité vers le pire et que depuis, moi ça fait 7 ans que je dénonce la montée de l'islamisme radical en France à travers des ouvrages, à travers des engagements, et j'ai l'impression qu'on en parle mais que rien ne change, que les politiques ne prennent pas forcément leurs responsabilités, qu'ils y vont à tâtons, que ça tergiverse toujours, et quand on sait qu'entre 2018 et 2022 il va y avoir 2540 détenus radicalisés qui vont être libérés, ben, c'est la consternation et un sentiment où on a l'impression qu'on est en train de laisser faire et que la France ne veut pas véritablement lutter contre cette menace islamiste qui peut être en col blanc avec les frères musulmans et l'islamisme politique qui s'infiltre. On a eu des exemples dans l'actualité récente. Et puis un islamisme mortifère, violent, qui est celui qui s'exprime par le sang.
Philippe Bilger.
Mais mon cher Philippe, ce crime est la suite de crimes similaires Et probablement, il précédera d'autres crimes. Alors, j'ai cru comprendre que le sujet central des vraies voix aujourd'hui serait consacré à ce problème-là.
Évidemment.
Je me permets juste de dire un mot. Moi, j'ai toujours considéré qu'il ne fallait pas prendre cette catégorie criminelle inspirée par l'islamisme meurtrier comme une criminalité ordinaire. Tant qu'on traitera de manière ordinaire, par la procédure, cette criminalité particulière, on fera sortir des gens, et des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de recommencer ou de commencer. Et c'est une catastrophe. Il faudra un jour accepter un état de droit adapté à cette catégorie criminelle très particulière.
Philippe Deveul, vous qui êtes avocat, vous avez entendu et Lydia Guirous et Philippe Deveul, certains de vos confrères ou de vos consoeurs doivent bondir en entendant ça.
Oui, non, mais ça, chacun a le droit de penser comme il veut. C'est pas parce qu'on est avocat qu'on peut adorer qu'on doit adorer les victimes. Chacun a droit à une défense. Mais là, il s'agit d'un sujet de guerre. Il ne s'agit pas de la criminalité ou de la délinquance ordinaire, comme le dit à juste titre Philippe Bilger. Un exemple concret, dans un des dossiers que j'ai sur le Bataclan, des complices d'Abdel Salam ont été libérés 2 ans et demi parce que c'était la loi qui l'imposait. Normalement, ils auraient dû être encore emprisonnés jusqu'au procès. Ces gens-là sont en liberté, alors que ce sont des complices d'attentats terroristes. C'est le législateur qui doit intervenir. C'est pas le juge. Le juge applique la loi dans ce domaine.
Il n'y a pas de volonté politique réelle de lutter contre
ça. Aucune volonté. Alors, je suis là où je trouve qu'on est en parfaite schizophrénie, c'est qu'on mène une guerre contre l'islamisme politique à l'étranger, en opération extérieure, qu'on a des soldats, nos soldats qui sont sur le terrain, on a des troupes au sol, on a à peu près une cinquantaine de morts qui font face à une situation très difficile. Et puis ici, silence radio, on fait rien. On dit oui. On essaye même de banaliser.
On
essaye de banaliser la chose. C'est ça qui est très grave. J'entendais sur le plateau de CNews le préfet Proutot qui banalisait la chose, au lieu de dire que c'est quelque chose de très grave. Et je suis tout à fait d'accord qu'on n'est plus du tout dans le cadre de la loi ou dans l'esprit des droits de l'homme.
Vous savez, la menace, elle est interne. En fait, aujourd'hui, ce sont des gens qui sont en France, qui vivent en France et qui retournent les armes contre nous. Et donc, la menace est interne. Et il y a quelques années, moi, j'avais parlé, comme d'autres, de cinquième colonne. Et vous n'imaginez pas ce que j'ai eu comme insulte, comme caricature, y compris de certains journalistes. Mais la menace est interne. Et il faut cesser maintenant d'avoir la main qui tremble. Il y a plein de politiques qui vont vous faire des grands discours avec énormément de mots durs, énormément de fermeté dans les propos, et derrière il n'y a rien qui suit, et je trouve ça dramatique. Et d'ailleurs, rappelez-vous, il y a quelques années, on a dépensé un pognon de dingue, pour le coup, en déradicalisation. C'était la grande mode, les cellules de déradicalisation.
Dedans, je croyais de la caresse de hamster, il me semble.
Il y avait des massages aussi, vous comprenez, ils ont besoin de se détendre, ça va les déradicaliser. Mais en réalité, quand l'individu est radicalisé, quand il est dans cette idéologie-là, vous ne le déradicalisez pas. Et sa seule obsession, c'est de pouvoir recommencer. Et s'il faut passer par une phase de dissimulation de son envie profonde, c'est-à-dire de tuer, d'anéantir et de soumettre en fait l'Occident et le modèle occidental, eh bien il passera par cette phase de dissimulation jusqu'à ce qu'il y ait un possible passage à l'acte. Donc il n'y a pas de déradicalisation. Mais on est encore dans ces logiciels avec une forme de volonté de comprendre, d'expliquer, qui nous font perdre un temps précieux et parfois même des vies.
Philippe Bilger, pour le mot de la fin, en préparant l'émission, j'ai lu une chose, je me suis peut-être trompé d'une loi. Depuis 1986, on a voté 35 lois. C'était tellement long à compter que je me suis peut-être trompé d'une sur de lois antiterroristes. Et manifestement, j'entends un éminent juriste comme vous, Philippe Deveul, et j'entends Lydia Guirous, et je me dis qu'on est complètement désarmé, nonobstant 35 lois en 35 ans.
Mais précisément, mon cher Philippe, et sans paradoxe, à cause de la multitude de ces lois, sur le constat tout de même, il faut arrêter, tous les gens sensés, lucides, sont à peu près d'accord. On a bien compris qu'une personne comme ça, qui a été tuée, appartient à une cohorte, à une théorie qui est prête à assassiner tout ce qui ne ressemble pas à sa religion, à sa perversion. Mais le gros problème, c'est d'accepter, comme le disait Philippe tout à l'heure, qu'on change radicalement notre état de droit. Si on continue à appliquer une grille ordinaire à cette criminalité hors de pair, on va de catastrophe en catastrophe, c'est très clair. Et pardon Philippe, juste un mot, la frénésie législative, c'est pas le signe de l'action, c'est exactement le contraire, exactement. C'est de l'agitation. Le pouvoir qui est sûr de lui n'édicte pas des lois, il agit.
Lèverez-vous à 17h14 avec Lydia Guirouz, Philippe Deveul, Philippe Bilger. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du tour de table de l'actualité. Et Lydia Guirouz va nous amener en Californie, mais pas que.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Philippe Deveul et Lydia Guirouz qui nous embarquent, direction la Californie.
La Seine-Saint-Denis, c'est de la bombe bébé, et si t'as le pédigré, ça s'en connaît au bébé. La Californie, la Californie. Samedi, samedi, fond, fond du flèche.
Parfait comme montage, hein.
Ah, c'est une introduction qui est parfaite.
Bravo à Jamel. Alors, vous avez un grand fan de NTM, c'est le Joe Star des Vraies Voix, Philippe Bilger. Ça, c'est une notoriété publique.
On va lui demander c'est de rapper après.
Oui, ah oui, ah ben moi je l'ai vu rapper avec la casquette,
de rap,
c'est extraordinaire.
Philippe.
Je rappe juste du fromage.
On vous écoute, Lydia.
Alors, je vais vous emmener en Californie, la Californie au nord de Paris, la Seine-Saint-Denis. Là-bas, vous allez rencontrer de magnifiques femmes en bikini au bord de la mer, des hommes avec de jolis abdominaux, vous savez, ces plaquettes de chocolat qui font rêver. Certes, alerte à Saint-Denis, alerte à Saint-Denis. Et puis ces start-up qui font la fierté de la France. Voilà, c'est la Californie au nord de Paris, c'est la Seine-Saint-Denis. Il manque que la mer. En réalité, non. C'est la comparaison qu'a faite le président de la République en disant que la Seine-Saint-Denis était un peu la Californie sans la mer. J'ai un peu du mal à le suivre là-dessus.
Sans le soleil aussi. Hein.
Et sans le soleil, oui. J'ai un peu du mal à le suivre sur cette comparaison parce que la Californie fait la fierté des États-Unis. La Seine-Saint-Denis ne fait pas la fierté de la France. La Californie fait rêver les Américains. Je crois que la Seine-Saint-Denis ne fait pas rêver les Français. La Californie est un État riche. La Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre de France, avec des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec une délinquance qui bat des records. Et donc, je ne comprends pas la comparaison du président de la République. Alors oui, il y a un stade. Il y a quelques entreprises qui se montent. Mais vous savez, quand il n'y a pas de boulot, on monte sa petite boîte pour essayer de se créer son propre emploi. Donc là, je ne comprends pas où va le président de la République lorsqu'il compare la Seine-Saint-Denis à la Californie. Peut-être pense-t-il qu'en flattant la Seine-Saint-Denis, eh bien, il résout les problèmes de la Seine-Saint-Denis et il change l'image et les problèmes de la Seine-Saint-Denis.
Philippe Bilger, vous êtes plutôt Saint-Denis ou San Francisco pour rester dans les Saints en Seine-Saint-Denis, en Californie?
Disons, en même temps, mon cher Philippe, j'ai relu l'entretien du président en début d'après-midi. C'est un entretien que je persiste à trouver intelligent, mais je comprends en partie pourquoi il a de manière totalement élogieuse vanté la Seine-Saint-Denis qui serait notre Californie, parce que bien sûr, il s'agit là d'une volonté de faire partager une opinion dont lui-même sait qu'elle est excessive, mais il veut donner à la Seine-Saint-Denis un lustre qu'elle n'a pas. Mais c'est abusif. Ça aurait été valable s'il n'était pas tombé dans une hyperbole qui ne convainc personne. Donc, d'une certaine manière, cette Californie, même mythique, peut décevoir parce que la Seine-Saint-Denis ressemble à beaucoup de choses, mais pas totalement à la Californie.
Comme disait Lydia Guirouz, Philippe Deveul a des tablettes de chocolat qui pourrait lui permettre de jouer dans une série sur les plages de Californie à votre approche.
Avant de lui faire manger des tablettes de chocolat.
c'est les avoir.
Oui, les avoir, c'est comme vous voulez, puisqu'on est dans la dérision, restons dans la dérision. Moi, je dirais l'Elysée, c'est vol au-dessus d'un nid de coucou. Ça correspondrait plus à la réalité de Saint-Denis, qui est l'endroit où on a enterré nos rois, hein, la cathédrale de Saint-Denis. D'ailleurs, Mitterrand s'était recueilli une fois qu'il était élu, que de comparer bon, un État qui est performant, enfin qui est un État phare hein, pour les États-Unis, sauf que c'est un État démocrate qui vote plutôt à gauche.
Mais qui avait longtemps voté républicain, il avait un certain Ronald Reagan pour longtemps.
Exactement, et je pense qu'on a un président qui se fout de nous, quoi. Comme on voit ce qu'il fait, il reçoit des blogueurs à l'Élysée qui font des galipettes, alors qu'on a des crimes tous les jours. Non, mais bon, la jeunesse, vous savez, il y a des jeunes qui travaillent, qui font des concours, ouais. qui passent leur temps à faire des études, comme ça a été le cas de tous ceux qui ont passé des diplômes de droit. On ne s'amusait pas tout le temps, hein. faut travailler. Donc, quand on vous dit que bon, la jeunesse, c'est des... Moi, je n'ai rien contre la jeunesse dans son ensemble. Peut-être que j'ai un discours ragard ou un peu vieux jeu, peu importe,
non.
Mais...
on sera deux.
Voilà, on sera deux, Philippe.
Alors,
bon,
alors, peut-être trois.
Alors justement, on va terminer ce tour de table parce que Philippe Bilger veut rendre hommage à un livre sur un de nos maîtres, un de vos maîtres, je
absolument.
Le sais. Vous probablement aussi, Lydia Guirous. Certain Michel Audiard. Philippe Bilger.
Là, on parle de gens sérieux.
Alors, Philippe, le hasard a fait que j'ai... participé récemment à un entretien, on m'a remis un livre d'un professeur de droit, Fabrice de Ferrare, qui a écrit « Les lois de Michel Audiard ». Et il montre bien que cet homme, non seulement a été un dialoguiste plus que talentueux, mais qu'il a été, je dirais, un maître d'œuvre dans toutes les phases du cinéma pour faire passer son projet intellectuel et même politique. Et au fond, il était très passionné par le droit, par les lois, et en même temps, il considérait qu'il y avait des principes, des valeurs humaines qui dépassaient la loi, et notamment pour lui, la liberté et la fraternité dans laquelle il met l'amitié. C'est un livre très remarquable où certains des dialogues mythiques de Michel Audiard sont reproduits, mais on se rend compte que cet homme était, au-delà de la drôlerie éblouissante qu'il offrait, beaucoup plus profond qu'on peut le penser, et il présentait en effet une véritable vision du monde et du rapport avec autrui.
Lydia Guirous aimait Audiard, les dialogues, c'est quand même toute une époque du cinéma français.
Ils sont extraordinaires et toujours d'actualité. Quand on les redécouvre, c'est toujours un immense plaisir. Et moi, j'aurais aimé pouvoir demander à Michel Audiard ce qu'il pense de cette comparaison, justement, entre la Californie et la Seine-Saint-Denis. Je pense qu'il aurait trouvé une petite formule très, très drôle et très juste. Et c'est vrai ce que disait Philippe Bilger. Dans les dialogues, on retrouve, et dans les films, on retrouve ce sens de la fraternité, de l'amitié et de la liberté. Et moi, j'ai un film que j'aime beaucoup, c'est Le singe en hiver.
Ah oui.
Et c'est vrai qu'entre entre Gabin et Belmondo, on voit ce sens de la liberté, cette envie de vivre sans faire attention au regard des autres, mais cette fraternité, cette solidarité, cette amitié. Et puis, il y a des répliques qui sont extraordinaires, bien sûr.
Vous m'avez rappelé un film que j'adore. Vous n'auriez pas vu qu'il y a, dans le rôle de Jean Gabin, Philippe Bilger, et dans le rôle de Belmondo, Philippe Deveux dans le remake d'un singe en hiver.
Pourquoi pas? Ah,
ou même deux Philippe. Singes là, parce que
Philippe. Oui, Philippe. Vous savez que c'est tiré d'un grand roman d'Antoine Blondin.
Absolument.
Qui parlait des verres de contact à propos de l'alcool qui réchauffait les relations.
Philippe Deveux, le fan d'Audiard.
Ah oui, j'adore Audiard. Et d'ailleurs, il fait partie de cette génération d'écrivains qui parlaient cru dans leur qui écrivait cru dans le roman, comme Boudard, comme Dard. Et si vous voulez, quand je vois
Jean-Yann.
Jean-Yann, bon. Oui, mais il était plus humoriste. Oui, je parlais plutôt littéraire. Audiard était un littéraire. C'était quelqu'un d'écriture. Et j'oublie pas ses paroles quand il dit quand les cons seront sur orbite, t'auras pas fini de tourner. j'adresse ça à qui vous voulez. Si...
mais à aucune des vraies voix.
Là, mais c'est pas la Californie que je parle, mais bon, c'est des paroles d'Audiard.
Ah bah
il y avait aussi une parole très drôle, pardon. Où il y avait une dame, une femme qui jouait dans un film avec Gabin, et puis il y avait Pousse qui disait on va pas avec des saucisses, on va pas à Francfort.
Vous voulez un petit florilège?
Allez,
allons-y.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur?
Non.
Un voleur, de temps en temps, ça se repose.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
Je t'envoie un mec cette semaine.
À quoi que je le reconnaîtrais?
Un beau brun, avec des petites bacantes, grand, l'air con.
C'est coléré, les grands cons.
Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre les talons.
Extraordinaire, non? Oui, Philippe de...
Philippe, d'ailleurs, il détestait les cons, mais il établissait une hiérarchie assez juste entre les cons.
Ah, ça m'inquiète,
là. Il disait, il y a les cons pas méchants, les cons bêtes, et les cons scélérats. Et ça, c'était le comble de la connerie, la connerie qui était d'une totale malhonnêteté.
Et pour conclure, il y a une citation qui n'était pas dans le Florilège, qui était excellente, c'est dans le film Fleur d'oseille, qui n'est pas très connu, c'est « Quand tu passes pour un con, passe vite ». Je trouve que celle-là, elle est vraiment excellente. Vous êtes bien dans les vraies voies avec Philippe Bilger, Philippe Devel et Lydia Guirousse. Dans quelques instants, est-ce que la France est un pays dépressif? Ah ben, on va pas se poser la question. Pas avec nous, non, parce que c'est dans la bonne humeur, les vraies voies, quelles que soient les circonstances. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Philippe Devel. Painting Black, les Rolling Stones. Oui, la santé mentale des Français a été fortement éprouvée pendant la crise du Covid, puisque l'usage de médicaments anxiolytiques, hypnotiques et antidépresseurs ne cesse d'augmenter, pointe un rapport publié hier. Au total, accrochez-vous bien, entre mars 2020 et avril 2021, une augmentation de 1,9 million de délivrances d'antidépresseurs, de 440 000 d'antipsychotiques, de 3,4 millions d'anxiolytiques et d'1,4 million d'hypnotiques ont été observés par rapport aux données qui étaient attendues sur la période. 22% de la population souffre d'un état dépressif et 9% des Français ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année, expose l'enquête Covipreve réalisée pour Santé publique France entre les 21 et 23 avril 2021. La France est-elle un pays dépressif? C'est notre premier débat et pour le moment vous êtes 80% à dire oui. Philippe Bilger, manifestement le Covid crée de gros dommages collatéraux d'un point de vue des maladies psychologiques et psychiatriques, non?
Absolument, Philippe. Et parce que moi, depuis le début de cette épidémie, j'ai la chance de vivre sereinement cet état grâce à l'extraordinaire efficacité et prudence, il faut le dire, de Sud Radio. J'ai eu tendance peut-être à sous-estimer l'impact du malheur et de la détresse sur beaucoup de gens. Il est clair que pour une multitude, le fait d'être privé de relations sociales, de rapports chaleureux, doux, affectueux, de rapport tout simplement de banalité quotidienne avec autrui, a créé de vastes traumatismes et vous avez raison de choisir ce sujet et de montrer l'ampleur qu'il a aujourd'hui. C'était à la fois inéluctable, mais je ne pensais pas que ça atteindrait une telle dimension de pessimisme et de morosité.
Lydia Guirousse, vous entendez ces chiffres, plus 440 000, plus 1 million 9, plus 3 millions 4, c'est fou.
Alors, on était déjà à des taux très élevés avant la crise de la Covid, mais avec la Covid et les périodes de confinement, moi, j'ai été dès le début très inquiète de cela. Et nous avions même fait un plateau télé, un débat avec Philippe Bilger sur une CNews, hein, pour les citer, où j'avais fait part de mon inquiétude, notamment sur la santé mentale des jeunes qui sont enfermés. Alors, il y a les étudiants qui ont des pensées suicidaires, ils sont également enfermés, ils ont passé toute la journée, notamment au premier semestre, derrière leur écran, à avoir des cours avec Zoom, ce qui est complètement froid et très difficile à suivre, des heures et des heures comme ça, parfois enfermés dans 9 mètres carrés, puisque c'est ça les chambres de bonne. Et puis vous avez ces ados qui ont souffert de ne plus avoir de relations sociales. Et pour les adultes, eux aussi ont souffert de l'enfermement, mais ils ont aussi souffert d'une autre chose, c'est cette incapacité à pouvoir se projeter dans l'avenir. Et pour rester en forme, pour avoir le moral, il faut pouvoir se projeter, il faut pouvoir faire des projets, il faut pouvoir savoir où on va aller en vacances. Et il y a cette peur aussi de perdre son emploi, la peur du déclassement, la peur de la précarité est beaucoup plus importante maintenant chez une partie de la population qui est plus large. Et c'est pour ça, je pense, qu'on a ces chiffres-là.
Philippe Devel, c'est terrifiant ces chiffres.
Oui, mais
22% de la population souffre d'état dépressif, 9% a eu des pensées suicidaires.
C'est malheureux, c'est pas étonnant.
1 sur 10, 9%.
Je pense que ça s'explique par plusieurs raisons, tout a été plus ou moins dit, mais ce qui est grave, c'est qu'il y a des enfants qui se sont suicidés.
Alors, on avait eu d'ailleurs dans la semaine chez André Berkoff, un psychiatre d'un des hôpitaux de Toulouse, je crois que c'était Rangueil, qui disait qu'il y avait eu des tentatives de suicide chez des enfants de 6 à 7 ans.
Oui, il y a des enfants qui ne veulent plus sortir de leur chambre.
Et qui se suicident, des enfants de 9 ans, des psy n'avait jamais vu ça. Donc c'est vrai que on vit dans une période anxiogène. La crise du Covid n'a pas fait pour arranger les choses, mais ça n'allait pas terrible, c'était pas terrible avant. Vous voyez ce qui se passe, l'actualité, les gens sont terrorisés, sont angoissés. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Et c'est normal, comme on est dans un monde difficile qui est, où il y a beaucoup de pression, pression sociale, pression fiscale, pression du travail. Les gens, il faut qu'ils se réfugient. Et comme on manque aussi de spiritualité, de force et de foi, les gens vont vers le chimique, vont vers les antidépresseurs pour les soulager. Et c'est quelque chose qui est humain et que je comprends, mais qui est très malheureux.
On part au 0826-300-300. Bonsoir Kamel.
Oui, bonsoir.
Bienvenue dans Les Vraies Voix. Est-ce que vous pensez que la France est devenue un pays dépressif quand on entend ces chiffres qui sont terrifiants?
En tout cas, il y a une réalité. C'est les chiffres qui ont été évoqués. L'étude montre une augmentation, en effet, de la consommation des anxiolytiques. Tout a été dit tout à l'heure. Je rajouterais que depuis 10 ans, en France, on ne peut pas dire que le moral des Français a été ménagé avec les attentats qu'on a vécu et dernièrement la crise sanitaire qui dure maintenant un an et demi.
Et vous avez des amis qui sont tombés... comme l'a dit Philippe Bilger, dans les paradis un peu artificiels, alors soit l'alcool, la consommation de tabac cessait de baisser par exemple, la consommation d'alcool, alors évidemment on n'en consomme plus dans les restaurants depuis des mois, ça par la force des choses, mais la consommation d'alcool a monté. Vous avez des proches, des voisins, des amis qui ont, on va dire, allez, un peu transgressé leur vie d'avant, quoi?
Oui, dans les proches, on a quelques personnes qui se sont réfugiées dans l'alcool, dans les anxiolytiques. Malheureusement, c'est une réalité. C'est aussi quelquefois une solution de facilité. C'est vrai que ce qu'on a vécu a joué sur le moral, le manque de perspective dans l'avenir, l'effet divers, ce qu'on entend à travers les médias...
C'est pas bon pour le moral. Mais d'ailleurs, vous mettez le doigt là où ça fait mal, Kamel, parce que c'est une statistique qui est tombée aujourd'hui. La crise du Covid, outre les dépressions, frappe massivement les plus précaires et les plus pauvres. Et on était à 9 millions de pauvres. Il y a un autre rapport qui dit qu'on va passer à 11 à 12 millions de pauvres. Philippe Bilger, est-ce que la peur de l'avenir, c'est pas ce qu'il y a de pire?
Mais vous avez raison, Philippe, et je rejoins ce que Lydia a dit avec Philippe. Il me semble tout de même que le pessimisme surgi avec la Covid-19 est d'une nature infiniment plus grave et plus intense que la mélancolie française d'avant. La mélancolie française d'avant, bien sûr, elle touchait parfois le présent, l'inquiétude, le désir d'échapper à certaines contraintes, à certaines épreuves. Tandis qu'ils ont très bien dit, et je partage leur sentiment, qu'avec la Covid, l'avenir semble barré, bouché. C'est tout à fait différent et c'est beaucoup plus grave.
Lydia Guirous, vous qui êtes la plus jeune du plateau, c'est une réalité visible. Quand vous avez des enfants peut-être autour de vous, comment est-ce qu'ils réagissent au masque à l'école, au confinement à répétition, etc.?
Les enfants sont épuisés de porter ces masques. Moi, j'ai remarqué que certains enfants qui sont très jeunes, notamment 3 ans, 4 ans, certains qui ont connu en fait la période de confinement alors qu'ils étaient encore à la crèche, ne savent pas qu'en France, on se salue en se serrant la main et en se faisant la bise.
C'est vrai.
C'est quand même un changement très important. Il faut leur réapprendre que ça fait partie de la civilité française que de se serrer la main et de se faire la bise. Ceux qui sont plus grands sont assez déprimés parce que c'est stop and go et il faut quand même saluer l'action du ministre de l'Éducation nationale et d'Emmanuel Macron, qui a refusé de fermer les écoles et ont tout fait pour maintenir les écoles ouvertes. Ça, c'était vraiment très important pour la santé de nos enfants et surtout pour maintenir un niveau. Moi, je pense que ce qui va se passer aussi, c'est que les inégalités vont s'accroître de manière très, très forte avec cette crise de la Covid, puisque les plus précaires, les plus fragiles sont en première ligne. Ce sont leurs emplois qui vont être détruits. C'est eux qui ont le moins de formation. C'est eux qui en trouveront avec beaucoup plus de difficultés. Et vous avez parlé du seuil de pauvreté. Il y a des millions d'enfants aujourd'hui en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et en Seine-Saint-Denis, vous savez, notre Californie française, selon le président de la République, il y en a énormément aussi. Et je crois que c'est en voyant la situation en Seine-Saint-Denis que le président de la République, dans son interview d'ailleurs, a compris qu'il fallait absolument maintenir les écoles fermées, parce que ces enfants qui étaient aussi parfois des violences intrafamiliales. Il y a eu des enfants morts pendant la première phase de confinement.
Absolument, les violences intrafamiliales ont explosé. Le mot de la fin, Philippe Deveul.
Le mot de la fin, il y a un déclassement de la société depuis une vingtaine, voire 25 ans. Je prends à témoin Philippe David, qui était à l'école avec moi.
Il y a
fort longtemps, on vivait, et je prends aussi à témoin Philippe Bilger, il a beau se masquer derrière sa caméra, et on sait qu'il est là, mais on avait des jours heureux, on avait une joie de vivre qui s'est estompée au fur du
Parce
temps.
Vous avez plus d'opportunités, votre génération.
Oui.
Discussion que j'ai avec mon père.
Il y avait certes plus d'opportunités, l'époque était plus facile, il n'y avait pas tout ce poids qu'on a aujourd'hui, et c'est un glissement. Et à cela, il faut rajouter les 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, et à mon avis, ça fait partie du lot.
Du lot. Verdict sur Twitter, vous êtes 79% à dire oui, la France est un pays de dépressifs. De suite, on passe au second débat qui est beaucoup plus léger, on va parler de Zidane.
Les vraies voix Sud Radio.
Il est libre Zizou, comme il était libre Max, comme chantait Hervé Cristiani, puisque Zidane n'est plus depuis hier l'entraîneur du Real Madrid. Et les rumeurs vont bon train. On écoute Patrick Roger ce matin dans le grand matin de Sud Radio.
Ben moi je ne sais pas, mais je regarderai quand même du côté du Paris Saint-Germain. Mmh. Parce que quand on voit que Pochettino a des contacts avec Tottenham, etc., il pourrait très bien ne pas rester, selon le Parisien, à surveiller.
Je pense exactement la même chose que Patrick Roger. Si Trina ou un de ses médiums, Alexandre Delovane, peut nous renseigner, ce serait bien. Alors le PSG, les Girondins, club de Bordeaux bien sûr, club dont il a porté les couleurs, ou l'OM, le club de sa ville natale dont il n'a jamais porté les couleurs. En attendant, pourquoi pas les Bleus, le jour où Didier Deschamps décidera de prendre du recul. Aimeriez-vous voir Zidane entraîner en France? Eh bien, c'est un score de parité, 50-50 sur Twitter. Tiens, on va directement au 0826-300-300. Bonsoir Ludovic. Ludovic? Allô, Ludovic? Ah, alors tiens, on va commencer par le plus fouteux de vous, c'est encore lui, Philippe Bilger. Est-ce que vous rêvez de voir Zidane revenir entraîner en France? Enfin, venir entraîner en France, il n'a jamais entraîné en France, il a juste passé ses diplômes d'entraîneur.
Franchement, Philippe, il faut une sacrée présomption pour contredire notre directeur général spécialiste en foot, Patrick Roger, et surtout notre animateur de qualité qui est le monstre sacré du savoir footballistique. Mais moi, à la limite, ça ne me gênerait pas qu'il vienne en France, mais j'ai été un peu surpris de voir les critiques qui lui ont été faites à Madrid, qui révèle un personnage peut-être plus complexe qu'on le pense, puisqu'on lui a reproché en particulier pas seulement le plan sportif avec rien cette année, mais d'avoir un caractère à la fois taiseux et impulsif. On ne peut pas imaginer cela, et donc s'il vient, s'il est aussi doué qu'au début avec le Real Madrid, pourquoi pas, mais il faudra qu'il se trouve une place. Je ne l'imagine pas au PSG tout de même.
Ah, et vous l'imagineriez où, tiens? Donner la parole à Philippe Deveul et Lydia Guirous.
Oula,
mais pas forcément. Ah ouais, mais je vais laisser Lydia prendre tous les risques.
C'est sympa, Philippe. Moi, je garde l'image de Zidane, Zizou, comme celui qui nous a fait gagner la Coupe du Monde.
Et, en 98.
À vrai dire, qu'il soit PSG ou à la tête de l'équipe de France pour l'entraîner, je pense que ça peut être une bonne nouvelle. Après, je ne suis pas experte en foot. Qu'il soit taiseux et impulsif, bon, m'intéresse assez peu. Ce que je veux, c'est qu'il gagne s'il est l'entraîneur de l'équipe de France et qu'il nous ramène encore en tant qu'entraîneur une autre Coupe du Monde. Ça serait formidable.
Ah, ce serait bien, comme Deschamps l'a fait.
J'espère, Philippe, j'espère qu'il ne choisira pas sur un coup de tête.
Ah bah, c'est clair, Philippe de Veul.
Si ça peut permettre de désangoisser certains qui prennent moins d'anxiolytiques parce que raisonnables reviennent sur la France, bah, je signe. Alors, je vais te contredire, Philippe Bilger, tu penses qu'il n'ira pas à Paris Saint-Germain? Moi, je pense que oui, parce que je crois que c'est celui qui est... C'est le club qui est en pointe et qui a le plus de moyens.
Ah bah,
et je crois que si Zidane revient, il ira là où ça, c'est le plus intéressant,
ouais,
Philippe, me semble-t-il.
Même,
pardon,
Pochettino ne part pas, hein, tout de même. Et
ah, mais vous avez entendu difficile. Patrick Roger qui dit vrai. A priori, il y a des contacts avec le Real et avec son club d'avant, Tottenham.
Il l'admet, mais tout de même, le PSG, serait-il prêt à laisser partir au bout de 6 mois?
On va aller au 0826-300-300, on a un fan de foot. Bonsoir Ludovic, qu'on a retrouvé.
Oui, bon.
Alors vous êtes supporter de Montpellier, du Montpellier Hérault, vous imaginez, tiens, comme Michel Derzakarian s'en va, Zidane à la tête de Montpellier.
Ça vous pense, vous en pensez quoi? On était sur Olivier Dalloglio, oui. Laurent Batlle. Et puis Zinedine Zidane, je l'apprends à l'instant par Sud Radio. Alors,
ça vous fait rêver Zidane en France? Alors peut-être pas à Montpellier, mais au PSG, à Marseille ou à Bordeaux, tiens, comme ça a été un club dont il a porté les couleurs.
Ben justement, après moi, pour parler du PSG, la situation de Pochettino, a priori, elle s'inscrit en pointillé, malgré le fait qu'il soit arrivé il y a pas très longtemps. Et ensuite, moi, je me place plus du côté Zinedine Zidane. En fait, oui, ben en Ligue 1, clairement, il va chercher. Donc, je sais pas si c'est un projet pour lui de venir entraîner, mis à part au PSG. C'est quoi les challenges sportifs une fois qu'on a coaché pendant plusieurs saisons le Real de Madrid?
Ah ben, c'est sûr qu'en club, il y a pas mieux. Hein. Excusez-moi, en club, il y a rien de mieux.
Personnellement, je vois pas trop. Et puis ensuite, à moins qu'il ait envie de relever un défi, par exemple pour le LOSC, Lille, Marseille, comme vous dites, avec des villes de foot, etc. Mais bon, vous imaginez l'effectif. Encore une fois, quand on vient du Real de Madrid, je suis pas trop sûr. Et puis après, je vous entendais par contre parler de l'équipe de France. Ouais, Didier Deschamps.
Et tant qu'on tâche qu'en 2022, hein, Deschamps.
Après Deschamps. Voilà. Ouais.
Et on peut penser légitimement, oui, effectivement, à Zidane en équipe de France à terme. Et ça, ce serait beau. Et j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié la blague du coup de tête. Ça, c'est
c'était du Philippe Bilger dans le texte. Il a fait ça. Oui, Philippe Bilger, le mot de la fin.
Olivier, si
non, c'est pas Olivier, c'est Ludovic.
Pardon Ludovic, j'ai une sorte d'Alzheimer radiophonique. Mais si vous avez Ludovic, l'entraîneur qui est pressenti à Montpellier, ça va être formidable parce que je trouve qu'il a fait jouer à Brest un jeu extraordinaire. C'est une petite équipe, mais très agréable à regarder.
Vous êtes bien dans les vraies voies. Merci beaucoup Ludovic de Montpellier. Vous êtes bien dans les vraies voies. 17h47, verdict, c'est toujours 50-50, un score de parité parfaite. Bah écoutez, ça vous dirait de jouer? Bah balle au centre.
Ah oui.
Dans quelques instants, on se retrouve pour jouer au roi de l'info avec Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guiroux et Philippe Deveul. Il est arrivé avec ses trompettes et son chat, c'est Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Je souligne le fait que vous persistez à discriminer le lion. Vous n'en parlez jamais alors que c'est le premier qu'on entend.
Ah bon?
Oui,
ah,
le lion des rois de l'info. Oui.
Ah bah excusez-moi.
Vous avez un chat après, vous commencez par un lion. À chacun son animal totem,
oui.
Cela étant dit.
Oui, c'est mon signe astrologique.
Exactement. 0826-300-300, on va voir si vous avez suivi l'actualité insolite du moment. Chers amis, on retrouve Luc qui nous appelle depuis le Val-de-Marne. Bonsoir à vous mon cher Luc.
Bonjour Philippe David, bonjour à vos invités. C'est toujours un plaisir.
Bonsoir.
Bienvenue à vous Luc. D'abord, je vais vous proposer de choisir l'une de nos trois vraies voix avec laquelle vous allez jouer contre les deux autres, Philippe Bilger, Philippe Deveul ou Lydia Guiroux.
Écoutez, avec grand plaisir, Lydia Guiroux.
Allez, c'est parti. Je vais vous poser trois questions en rapport avec l'actualité du moment. Vous répondez tout seul et en premier, je vais vous donner trois possibilités à chaque fois, mon cher Luc. Si jamais vous vous trompez ou si vous n'avez pas la réponse, les vraies voix se battent. Et si Lydia Guiroux répond bien et en premier, vous aurez le point quand même. C'est parti ?
Je n'en doute pas.
Allez, je vous emmène dans le sud, on est sur Sud Radio, ça se passe dans le sud de la France. 145 000 injections de vaccins ont été annulées aujourd'hui, d'après vous, pourquoi ? Réponse numéro 1, à cause d'une toute bête panne de camion. Réponse numéro 2, parce que les patients ont peur de l'AstraZeneca. Réponse numéro 3, parce que des patients annulent leur rendez-vous à cause du retour du beau temps, d'après vous.
Écoutez, celle du milieu, je l'évite. Écoutez, je pense que le beau temps y est pour beaucoup.
Eh ben, c'est raté.
Non, mais...
C'est la une,
le camion.
Le camion, alors.
Une panne de camion de livraison.
Le beau temps aussi.
Mais oui, c'est logique, c'est un piège. Désolé, chers amis. Oui, c'est dans le sud. Non,
c'est trop pragmatique.
C'est extrêmement pratico-pratique.
Il faut juste espérer que, comme c'était des vaccins, c'était pas une panne d'injecteur pour le camion, non. Parce que là, ça serait vraiment mauvais aloi.
145 000 doses de vaccins qui ont été annulées en Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un tout bête camion de livraison, il devait être quand même assez gros. On continue. Il reste deux questions. Je vous emmène au Danemark. Marc, Luc, un reportage radio fait polémique, il fait scandale même. Ce reportage devait illustrer la réouverture des clubs libertins. Alors d'après vous, pourquoi ce reportage fait scandale ? Réponse numéro 1, parce que dans le reportage, on y a reconnu la voix de l'un des principaux responsables de l'église luthérienne du Danemark. Réponse numéro 2, parce que dans le reportage, on y entend... deux ministres faire l'amour. Réponse numéro 3, parce que dans le reportage, on y entend la journaliste elle-même faire l'amour, d'après vous.
Ah, écoutez, je pense que c'est la journaliste.
Bravo. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue, et je vous assure que c'est vrai. Et d'ailleurs, la radio a justifié ce choix avec la responsable de sa programmation.
J'étais avec elle.
Vous y étiez.
Et on a reconnu votre voix.
On a reconnu peut-être votre voix. En tout cas, la radio a défendu sa journaliste qui visite in situ dans le club libertin, effectivement, la réouverture, interview des clients. Et à la fin, elle fait l'amour avec un homme et on l'entend. Il y avait un avertissement au début du reportage pour les oreilles qui ne devraient pas entendre ceci.
Philippe Bilger veut réagir, c'est un expert.
Elle est confiancieuse, exactement.
Et je trouve, a dit la responsable de la programmation de la radio, je trouve que c'est bien quand nos reporters essaient d'expérimenter le journalisme de façon différente.
Elle devait avoir un micro.
Non, mais ça, c'est bien d'allier la forme et le fond. Exactement. Je trouve que ça manque aux politiques.
On continue. Vous avez égalisé. Je vous emmène au Samoa. C'est la radio du rugby sur Sud Radio.
Hein.
Dernière question pour vous,
elle
Luc.
Elle devait avoir un micro, ma sœur.
Exactement. Dernière question pour vous, Luc. La radio du rugby Sud Radio vous emmène aux îles Samoa où le Premier ministre, qui a perdu les élections, refuse de quitter son poste. Quel est l'argument qu'il utilise ? Réponse numéro 1, pas avant la fin de l'épidémie à la Bondo. Hein. Réponse numéro 2, parce qu'il estime avoir été désigné par Dieu. Oui, oui. Réponse numéro 3, parce qu'il accuse le camp d'en face de fraude. Ça arrive.
Écoutez... la fraude, c'est un truc classique, oui, donc c'est trop banal. Ouais. Je pense que Dieu est en bonne place pour le...
Exactement.
Oui, j'aurais dit c'est la même chose.
J'ai été désigné par Dieu, je ne quitterai pas mon mandat, et d'ailleurs ils peuvent toujours se mettre à genoux pour me demander de quitter. Il a perdu les élections, il s'appelle Tuilaepa Sailele Malie Legaoi.
C'est Dieu qui a décidé ça.
La tuile est pour eux. Hein.
Exactement. C'est gagné. Grâce à Dieu et grâce à la journaliste qui s'est enregistrée en plein zéro.
Merci à Lydia Guirous.
Et ça a fait 3-0 après Zizou.
2-1, presque.
2-1, autant pour moi.
Comme quoi, la folie en politique n'a pas de frontières.
Absolument. Appelez le Dieu. Restez en ligne, mon cher Luc. Vous allez nous donner votre adresse dans le Val-de-Marne. Et Léa du Standard de Sud Radio va vous envoyer un mug. On vous embrasse.
Bravo, Luc.
Moi aussi. À très bientôt. Et c'est vraiment toujours un plaisir à vous aussi. Au revoir.
Merci beaucoup, Luc. Bravo à vous. Bon week-end. Notre grand débat à 18h30. Peut-on empêcher la libération d'un détenu radicalisé ? C'est l'actu de la Chapelle sur Erdre. Eh bien, pour le moment, sur Twitter, vous êtes 87% à dire oui. On se retrouve avec Les Vraies Voix dans quelques instants.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Lydia Guirous, essayiste, et Philippe Deveux, l'avocat. Et à 18h30, notre grand débat, peut-on empêcher
évoquez la libération des détenus radicalisés et pour le moment, vous êtes 86% à dire oui sur Twitter. Allez, c'est évidemment l'actualité du jour, la tentative d'assassinat. On en parle immédiatement avec Christelle Morançais, présidente de la région Pays de Loire.
Les vraies voix Sud Radio.
Tentative d'assassinat en fin de matinée d'une policière municipale à La Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes. Le terroriste a été abattu par les gendarmes après en avoir blessé deux dont le pronostic vital n'est pas engagé, contrairement à la policière municipale. Nous sommes en compagnie de Christelle Morançais, présidente de la région Pays de Loire. Christelle Morançais, bonsoir.
Bonsoir.
Tout d'abord, est-ce que vous avez plus d'infos pour nous dire ce qu'il s'est passé en fin de matinée et début d'après-midi à La Chapelle-sur-Erdre? C'est juste à côté de Nantes.
Écoutez, plus d'infos, je suis comme vous dans les dernières nouvelles. Moi, mes premiers mots, j'ai envie de dire déjà de dire que je suis tout cœur avec cette policière qui a été blessée, ces gendarmes, et de redire, et je pense que c'est important dans le contexte actuel, de redire que je suis du côté de ceux qui protègent la France, ceux qui protègent partout sur nos territoires. Et je pense que c'est important que chacun des élus s'exprime pour apporter nos encouragements, notre confiance et surtout le courage. Parce que d'attaquer un policier, c'est attaquer la France, c'est attaquer la République. Et je dois vous dire que ce soir, cet après-midi, c'est la colère. La colère de voir ce qui se passe, parce que moi j'ai assisté il y a quelques semaines aux hommages suite au décès des policiers dans notre pays. Et une fois de plus, une policière municipale est attaquée dans ma région. Et j'ai envie de dire stop, ça suffit. Qu'est-ce qu'on doit faire les élus? Il faut dire stop notamment aux tweets de condamnation. Je n'ai pas envie de faire ça. J'ai vraiment plutôt envie, c'est un cri du cœur, une colère ce soir. Il faut que ça cesse. Il faut que la peur soit pas du côté des gentils, mais plutôt de l'autre côté. Et il faut surtout une réponse pénale massive pour briser l'impunité.
Alors Christelle Morançais, et après je vais donner la parole aux vraies voix, vous avez parlé des tweets. On sent une exaspération massive sur les réseaux sociaux, puisque, je cite, hein, il est connu de la justice, déjà mis en cause dans une tentative d'agression en février dernier sur des policiers nationaux qu'il avait tenté d'agresser à l'arme blanche. Est-ce que vous comprenez les réactions épidermiques des Français sur les réseaux sociaux qui posent la question « que foutait-il dehors ?»
bien sûr, et je le partage. Aujourd'hui, on peut se poser la question pourquoi cet individu est sorti de prison? Il était extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Aujourd'hui, nos prisons, ce sont des zones de non-droit où des délinquants se radicalisent ouvertement, sans quoi que ce soit, sans quoi rien ne change. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire stop, il faut vraiment que cela s'arrête. Je peux comprendre l'exaspération et il faut aujourd'hui, encore une fois, il faut une réponse pénale massive pour briser cette impunité. C'est inacceptable.
Philippe Deveul, avocat.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Sauf que, malheureusement, il faut s'attendre au pire à l'avenir, parce que comme vous le dites, cette personne, qu'est-ce qu'elle faisait dehors? Et n'oubliez pas qu'on a un ministre de la justice qui a dit d'emblée qu'on n'était pas dans un coupe-gorge dans ce pays, et qui est tout de suite allé voir les détenus. Donc il y a un manque de volonté politique. Et c'est d'autant plus inquiétant, la situation, qu'il y a eu un réseau, un magazine djihadiste qui donne une récompense de 60 000 $, qui correspond à un bitcoin, pour tout djihadiste qui égorgerait un juif, un chrétien ou un policier, s'il prend les photos et s'il les envoie, il recevra cette somme d'argent. Donc on est dans une guerre. Et quand on est dans une guerre, il faut la réponse politique adaptée. Et il ne faut pas nous habituer, banaliser la chose en disant bah, « faudra vivre avec ça pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans ». Est-ce que vous auriez imaginé Churchill dire aux Britanniques, vous savez, il va falloir s'habituer aux nazis qui nous bombardent l'Angleterre avec des abris pour se protéger anti-bombardement. Donc on est dans l'inconscience et le non-contrôle politique sur cette question.
Christelle Morançais,
je partage à 200% ce que monsieur vient de dire. C'est que là, aujourd'hui, c'est un non-acte de courage politique depuis de nombreuses années. Et en effet, quand j'évoque ce tweet, parce que c'est vraiment aussi un ras-le-bol, et moi je suis politique et je l'assume totalement, il faut un moment avoir du courage et ne plus accepter cette fatalité. À chaque incident, vous voyez les politiques, les uns après les autres, faire un tweet en disant « je condamne fermement ». Mais non, il n'y a plus de condamnation fermement. Là, aujourd'hui, il faut passer aux actes, arrêter les paroles et aujourd'hui, passer aux actes. Et moi, j'en appelle vraiment à cette responsabilité aujourd'hui au gouvernement qui est en place, ce qui n'excuse pas les gouvernements passés, que les choses soient très claires. Mais maintenant, on va regarder le présent et surtout l'avenir et surtout faire en sorte que dans ce pays, ça s'arrête.
Lydia Guirous et Philippe Bilger.
ces tweets sont grotesques. En réalité, ces tweets sont le signe de l'impuissance absolue. Mais Madame la Présidente, je voudrais vous interroger sur le point suivant. Philippe de Veule l'a un peu dit, mais il est évident que ce drame, cette tragédie criminelle qui ne fait que renouveler évidemment des tragédies précédentes et probablement en annonce d'autres, à la fois cumule une exécution des peines structurellement défaillante en France, premier point, et deuxièmement, applique un état de droit ordinaire à une criminalité islamiste qui ne l'est pas. Et donc je pense que tant qu'on ne changera pas ces deux vices, eh bien on aura malheureusement des crimes de même nature. Pensez-vous, Madame le Président?
Mais c'est une question qui lui pose.
Réponse donc de Christelle Morançais et ensuite Lydia Guirous.
Non, mais c'est vrai. Là encore une fois, je ne peux être que d'accord. Il faut que derrière la justice suive. Et ce qui est certain, c'est qu'il faut aucun individu qui soit radicalisé sorte de prison. Il faut derrière qu'il y ait un suivi. Et il faut être extrêmement ferme. Moi, j'ai eu l'occasion. Je peux vous dire, c'est pas que des paroles. Moi, je suis sur le terrain très souvent. J'ai eu l'occasion de passer une nuit avec la police nationale dans ma ville. De 20h le soir jusqu'à 3h du matin. J'ai vu ce qui se passait. J'ai échangé avec eux. Je l'ai fait aussi de jour avec la BAC il n'y a pas très longtemps. Ce qui se passe, c'est qu'ils font leur travail. Les policiers font leur travail. Ils arrêtent ces criminels. Bien et sûr. Derrière, ils ressortent. Et ils connaissent leurs droits par cœur. Et ça, il y a un moment, ça suffit. Ça suffit parce que c'est un découragement aussi pour les policiers. Il y a un défi de ces délinquants vis-à-vis de la police. Enfin, faut vraiment aujourd'hui qu'il y ait cette responsabilité, ce courage politique, mais ça peut plus durer. La peur doit changer le temps. Quand je dis ça, je dis haut et fort, mais il faut que ça cesse.
Je pense que nous sommes tous d'accord autour de ce plateau pour dire la même chose, c'est qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol de l'ensemble des Français parce que les attentats se succèdent et c'est les mêmes constats, c'est les mêmes experts, c'est les mêmes politiques avec les mêmes tweets évidemment, les mêmes réactions, les mêmes condamnations et puis ces postures de fermeté qui ne mènent sur rien en réalité de concret pour véritablement lutter contre le terrorisme islamique. Et ça, je pense que les Français en ont juste ras-le-bol et ça, c'est du carburant pour le Rassemblement national. Exactement. Donc, tant qu'on aura des politiques qui seront dans une forme de lâcheté ou qui prendront les Français pour des imbéciles, puisqu'ils considèrent que la posture, les mots suffisent à faire des actes, eh bien, nous aurons une France qui va décliner de plus en plus, et puis des taux d'abstention évidemment très importants et un vote extrémiste très important. Je crois que dans cette affaire, déjà, si on arrivait à expulser les délinquants qui sont de nationalité étrangère, on ferait déjà un grand pas parce que moi je considère que lorsque
c'est
vous
sous
avez...
la droite qu'on a supprimé la double peine.
Ah mais moi je me sens pas je me sens pas responsable du bilan des uns et des autres. Hein. J'ai jamais été au pouvoir donc je pense que c'était d'ailleurs une erreur. Ça partait certainement d'une bonne volonté mais c'est une erreur. Et aujourd'hui lorsque vous avez un délinquant qui est étranger, il faut pouvoir l'expulser. Il va falloir mener un bras de fer au niveau diplomatique pour en arriver et puis sortir de cette idéologie pleine de fausse bienveillance qui veut que en fait on ne va pas condamner et mettre à l'isolement une personne qui est radicalisée. Moi je pense qu'une personne radicalisée dans les prisons en fait c'est comme une cellule cancéreuse. Si vous ne l'isolez pas le plus rapidement possible, elle va se répandre auprès des autres détenus et on est en train de faire des prisons des lieux de radicalisation et ça c'est dramatique. Et enfin sortir de cette idéologie qui veut qu'on puisse déradicaliser des personnes qui sont radicalisées. Ils ne sont pas déradicalisables. Il faut vraiment les mettre hors d'état de nuire avec je ne sais pas quel moyen, parce que je ne crois pas qu'on puisse enfermer éternellement quelqu'un, mais il faudra trouver des leviers.
Christelle Morançais, très rapidement.
Moi, je partage encore une fois, parce que moi, mon inquiétude, c'est bien évidemment la réaction des Français. C'est là, on les emmène directement vers les extrêmes. Et moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie pour mon pays. Il y a des élections dans peu de temps, ça doit être soit de l'abstention, soit les votes extrêmes, alors que derrière, il y a des enjeux énormes. Comment voulez-vous qu'on réconcilie les Français avec la politique avec s'il n'y a pas d'action du monde politique? Donc l'enjeu, c'est vraiment passer des paroles aux actes.
Merci Christelle Morançais, présidente de la région Pays de Loire. Les Vraies Voix sera d'ailleurs notre grand débat tout à l'heure. Peut-on empêcher la libération d'un détenu radicalisé? C'est Les Vraies Voix, 18h16. Vous êtes bien sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
C'est aujourd'hui une double journée mondiale pour les femmes, puisque c'est la journée internationale pour la santé des femmes et la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Nous sommes en compagnie de Nadège Passereau, déléguée générale de l'association ADSF Agir pour la santé des femmes, qui aide les femmes qui vivent dans la rue et sont malheureusement de plus en plus nombreuses. Nadège Passereau, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, quel est le but de votre association, l'ADSF Agir pour la santé des femmes ?
Notre action, c'est d'aller vers les femmes qui se trouvent effectivement sans abri, dans la rue, les métros, les gares, dans des lieux de prostitution, exploitation sexuelle, qui sont victimes de traite, et de les accueillir pour leur permettre d'accéder à des soins parce qu'elles ne se soignent plus au vu de leurs conditions de vie.
Combien y a-t-il de femmes qui vivent dans la rue ?
C'est très difficile parce qu'il n'y a pas ou trop peu de statistiques. Les dernières datent de 2012 qui disaient qu'il y avait effectivement un nombre de femmes SDF, mais ces chiffres sont trop bien trop éloignés de la réalité. On attend l'enquête INSEE 2021, on espéra que le mot « femme » apparaisse pleinement et qu'il y ait une vraie statistique sur le genre.
Alors justement, vous avez une opération qui dure depuis maintenant plusieurs années avec un fabricant de protection féminine. Vous pouvez nous en parler ?
Oui, Nana nous apporte tout son soutien et organise en particulier cette année une opération Ça coule avec la vente d'un t-shirt pour sensibiliser le plus grand monde, parler de ce tabou des règles et justement de lutter contre la précarité menstruelle parce qu'aujourd'hui c'est une vraie problématique. On a des femmes dans la rue qui disent devoir choisir entre un sandwich et un paquet de serviettes hygiéniques et ils nous permettent de leur distribuer les serviettes hygiéniques tout au long de au cours de nos activités et de nos accueils.
Alors justement, Nadège Passereau, vous faites aussi des opérations prophylactiques de santé, avec notamment des camionnettes. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, nous avons ce qu'on appelle le Frotty Truck. C'est un camion qui est aménagé spécifiquement, permettant de proposer ses premiers dépistages, parce que dans la rue, dans la précarité, les femmes n'accèdent pas au dépistage. Alors que 90% d'entre elles, sur les 2200 que nous avons rencontrées l'année dernière, déclarent des besoins en santé évidents et elles vont déclencher avoir des pathologies graves 15 ans avant l'âge moyen des Françaises, on va dire, ou toute population en capacité de se soigner, ayant une carte vitale, nous dirons. Voilà, donc notre action, c'est de leur permettre d'accéder à ce dépistage, rencontrer des médicaux et des psys pour tenir compte de ces deux domaines de la santé que sont le corps et la tête.
Lydia Guirouz, vous qui êtes une femme, vous entendez ce que fait cette association, c'est quand même bien, on peut dire.
C'est extraordinaire, Philippe. Et je veux vraiment saluer le travail que vous faites, parce que c'est un sujet et des difficultés qu'on a tendance à oublier, où on n'identifie pas en fait le problème de la précarité menstruelle, notamment chez les femmes les plus précaires et les SDF, et c'est très important d'aller vers elles et de leur permettre d'avoir accès évidemment aux protections, mais aussi avec ce que vous faites pour les frottis et le dépistage. Je ne peux que saluer ce travail-là et j'espère que vous serez soutenu par des acteurs publics pour vous permettre de développer votre action.
Nadège Passereau, vous êtes soutenu par des acteurs publics ?
Oui, nous avons la ville de Paris, bien entendu. Nous investissons aujourd'hui Lille, nous avons le département, la ville, la région, Île-de-France, la DRIL, enfin l'État, la préfecture. Malheureusement, pas encore dans d'autres régions parce que nous manquons de moyens. On aimerait se développer dans d'autres villes qui nous le demandent parce qu'il y a très peu d'acteurs spécifiques au genre féminin et particulièrement dans les domaines de la santé. On est encore trop peu nombreux.
Philippe Bilger.
Ce qui me touche énormément dans votre combat, Nadège Passereau, non pas que je sois un spécialiste de la féminité sur ce plan-là, c'est que vous faites admirablement le pendant à un féminisme que, pour ma part, je qualifie d'un peu ostensiblement militant, qui s'occupe des classes favorisées, de progrès finalement un petit peu sophistiqués. Vous allez sur le terrain pour sauver des femmes dont l'ensemble des citoyens considèrent qu'elles sont véritablement en péril. Bravo.
Nadège Passereau.
Merci. Oui.
Merci, bah, c'est bien Philippe Deveul.
Oui, madame, et bah, écoutez, je vous félicite pour l'œuvre sociale que vous faites au niveau des femmes. D'abord, c'est un travail de femme, je ne vois pas un homme s'occuper comme ça de telles choses, mais au moins j'apprends quelque chose, et je félicite aussi Sud Radio de pouvoir vous donner la parole, que le public puisse savoir ce que vous faites, et éventuellement vous aider, absolument, vous encourager.
Alors justement, Nadège Passereau, comment est-ce qu'on peut aider votre association? Je rappelle son nom, l'ADSF Agir pour la santé des femmes.
Alors, des collectes de produits d'hygiène, évidemment, c'est l'estime de soi et c'est le premier pas vers la santé. De l'argent, donc, des camions qui peuvent pas rouler parce qu'il n'y a pas d'essence, c'est moins pratique.
Oui, c'est sûr.
Donc des moyens financiers. Et puis, effectivement, des bénévoles dans le domaine de la santé. On a énormément de professionnels de santé qui nous rejoignent bénévolement, nous permettant d'organiser tous les jours ces activités à l'attention de ces femmes.
Et comment peuvent-ils vous contacter ?
ADSFASSO.org.
ADSFASSO.org. Et inutile de dire, on est en période de déclaration des impôts, que les dons qu'on fait à votre association sont déductibles à 66%, je crois, c'est ça ?
75%,
parce que les
prestations sont gratuites à l'intention de ce public.
Ah bah écoutez, encore mieux. Eh bien écoutez, bravo Nadège Passereau pour l'association. Hein, les vraies voix sont unanimes pour vous rendre hommage. L'association, la DSF, Agir pour la santé des femmes, vous pouvez l'aider. C'est la journée mondiale, la journée internationale pour la santé des femmes et la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. De suite, notre grand débat. Peut-on empêcher la libération des détenus radicalisés ? Vous êtes 85% à dire oui. On en débat avec Claude Moniquet. Restez avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirous et Philippe Deveul. C'est un radicalisé fiché S, connu de la justice pour avoir tenté d'agresser à l'arme blanche des membres de la police nationale en février dernier, qui est à l'origine de la tentative d'assassinat sur une policière municipale de La Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes. Le pronostic vital de la policière est engagé, deux gendarmes ont été blessés, le terroriste est lui mort. Un nouvel attentat qui pose question, puisqu'on peut légitimement se demander ce que faisait ce type d'individu dehors, vu sa dangerosité avérée. Peut-on empêcher la libération des détenus radicalisés ? C'est notre grand débat et vous êtes pour le moment 85% à dire oui. Avec nous, Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme et cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Bonsoir Claude Moniquet.
Bonsoir.
Cette question, peut-on empêcher la libération des détenus radicalisés, se pose plus que jamais ce soir.
Mais oui, elle se pose, enfin cela étant, on a l'impression qu'elle se pose un peu après tout, enfin beaucoup d'attentats, puisque souvent on nous dit que soit l'individu était déjà connu des services et était fiché, soit effectivement qu'il sortait de prison depuis quelques semaines ou quelques mois, ça pose des problèmes. En même temps, le problème fondamental, c'est que cet individu avait d'une part purgé sa peine, et donc était, enfin une partie de sa peine en tout cas, et était sorti au mois de mars, sauf erreur de ma part. Il relevait manifestement de soins psychiatriques. Mais en France, on a un gros problème sur la psychiatrie, c'est qu'en 30 ans, on a divisé par deux le nombre de lits et que donc les capacités d'hospitalisation ont fortement baissé. Donc on a effectivement aujourd'hui des gens qui se promènent en liberté ou qui sont dans des appartements dits supervisés et qui auraient sans doute beaucoup plus leur place dans un milieu fermé ou semi-fermé.
Philippe Bilger.
Alors Claude Moniquet, c'est à chaque fois un plaisir de vous entendre, hein, franchement, sur Sud Radio. Mais,
merci Philippe Bilger.
Est-ce que d'abord la psychiatrie, est-ce que ça n'est pas une manière un peu systématique d'excuser une impuissance dans la lutte contre l'islamisme ? Premier point. D'autre part, on évoquait tout à l'heure avec notre ami Philippe David le fait que on persiste à opposer un état de droit banal et notamment totalement défaillant sur le plan de l'exécution des peines à une criminalité au sens propre extraordinaire. J'entends par là que cette criminalité-là, lorsqu'elle est vivante, profite de l'état de droit classique que lui offre la justice, alors que profondément, elle relève d'une catégorie qui me semble tout à fait exceptionnelle, puisqu'elle n'a qu'une envie, lorsqu'elle sera libérée, c'est de renouveler les agissements criminels qui lui sont reprochés. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on pourrait inventer un état de droit adapté à cette criminalité en montrant bien ses particularités odieuses par rapport à la criminalité ordinaire? Pardon pour cette question un peu longue.
Claude Moniquet.
Mais je suis en partie d'accord avec vous. La justice est aveugle et elle traite l'ensemble des prévenus à peu près de la même manière. Et effectivement, dans les prévenus, qu'est-ce qu'on a ? On a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont fait une grosse connerie. C'est leur place. Mais bon, il faut les traiter d'une certaine manière. Il y a des gens qui sont des petits délinquants d'habitude. C'est une gêne profonde, mais ils sont malhonnêtes, mais ils ne sont pas dangereux pour la société. Et puis, il y a des gens qui sont dangereux. Il y a le crime organisé mafieux, le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, et il y a les terroristes. Et effectivement, pour ces catégories de personnes, on devrait peut-être envisager, et de délits, on devrait peut-être envisager d'une part des peines plus lourdes, et d'autre part une application plus sévère de la loi, et des gens qui iraient plus systématiquement à fond de peine. On ne peut pas traiter de la même manière un garçon qui a volé dans une épicerie, et il a eu tort de voler dans une épicerie, on est tous d'accord là-dessus, et un criminel qui trafique les êtres humains et qui les fait mourir à l'arrière de son camion, comme on a vu à plusieurs reprises depuis des années, ou un terroriste qui poignarde des gens dans la rue. Je crois que n'importe qui peut être d'accord avec ça. Maintenant, il faut faire ça sans arriver à créer une justice d'exception, parce que la justice d'exception, j'ai tendance à m'en méfier, donc c'est quand même une réflexion qui est, à mon avis, longue et difficile, mais que manifestement, pour le moment, on n'a pas.
Lydia Guirous.
Oui, en fait, c'est l'idéologie derrière, c'est quand même l'islamisme, et l'islamisme est une idéologie qui veut simplement notre mort. Et quand on y adhère, c'est qu'on est un déséquilibré, c'est qu'on est un petit peu un dingue, parce qu'il faut quand même pas être très équilibré pour adhérer à cette idéologie qui est l'islamisme. Donc moi, je suis toujours un peu stupéfaite quand j'entends certains médias nous dire oui, il avait des problèmes psychiatriques et donc il était à l'hôpital psychiatrique. Je pense que l'hôpital psychiatrique ne peut pas non plus recevoir tous les intégristes islamistes radicalisés qui ont envie de passer à l'acte. Je suis pas certaine que ce soit le lieu où ils doivent se trouver, parce que comme vous l'avez souligné, il y a quand même beaucoup eu de suppression de lits. Et je crois que la question, c'est pas est-ce qu'on peut, mais c'est on doit. On doit faire en sorte que ces gens ne puissent plus passer à l'acte et qu'ils ne puissent plus se balader librement en France. Et je crois que pour ça, il faut quand même faire évoluer notre arsenal juridique, parce qu'on peut pas les traiter comme un autre délinquant ou comme un autre criminel. Leur obsession, c'est de pouvoir passer à l'acte ou de repasser à l'acte à partir du moment où ils seront sortis de la prison. Donc il faut pouvoir les mettre hors d'état de nuire le plus longtemps possible. Et s'il faut faire évoluer la législation pour ça, je pense qu'il faut en passer par là.
Claude Moniquet.
Mais je suis d'accord avec vous sur tous les points, d'ailleurs. Je pense qu'un extrémiste violent, quelle que soit son idéologie, que ce soit un islamiste ou un néo-nazi ou un maoïste violent, s'il y en a encore, un type qui pense qu'au nom d'une idée, il va changer le monde en mettant une bombe dans une gare, en poignardant des gens ou en les décapitant, effectivement me semble déjà a priori relever de la psychiatrie. Ça me paraît assez clair. Maintenant, effectivement, au-delà de ça, il y a effectivement une idéologie, et l'idéologie, il faut la combattre. Et ça, jusqu'à présent, jusqu'à cette loi sur le séparatisme qu'on a discuté.
En forçant les valeurs de la République. Oui,
on ne s'est pas attaqué à cette idéologie. Aucun des gouvernements en place depuis 30 ans, qu'ils soient de droite ou de gauche, ne s'est attaqué au fond du problème, à savoir le fait qu'on ne devient, on ne naît pas terroriste, on le devient, et on le devient par un processus de radicalisation. Et donc, il faut couper l'herbe le plus bas possible, c'est-à-dire au niveau de l'idéologie, pas au niveau du passage à l'acte.
Philippe Deveul.
Oui, mais ce discours, je le connais depuis des années, et moi, en tant qu'avocat de victime de terrorisme, ça fait plus de 6 ans que je suis dans ces dossiers-là, sur l'affaire du Bardo, du Bataclan ou récemment de Nice.
Bardo, c'était à Tunis.
C'était à Tunis, voilà. J'ai rencontré des politiques qui vous écoutent, ils sont dans la communion de la souffrance des victimes, mais il n'y a rien qui se fait. Et quand on vous dit, mais il y a un danger qui est là, rien n'est fait. Par exemple, la Tunisie, on sait qu'il y a une connivence du parti islamiste Ennahda avec les terroristes et avec le pouvoir.
L'État français était au courant. J'ai prévenu les plus hautes autorités en rencontrant François Hollande à l'époque, qui avait connaissé le dossier, mais qui n'avait rien fait. Puis après, quand on avait demandé une entrevue à Macron, il a botté en touche, il n'a pas voulu nous recevoir du tout. Ça ne l'intéresse pas. Il préfère faire autre chose que de faire du vrai travail. Donc maintenant, il faut savoir qu'on est en guerre. Et quand on est en guerre, on ne peut pas... Alors, on veut faire des lois, mais c'est bien. Tant qu'il n'y a pas la volonté politique de rentrer dans le vif du sujet, de proposer des véritables solutions, rien ne se fera. Il faut savoir qu'il y a 15 millions d'armes illégales qui sont en circulation dans ce territoire, dans ce pays, qu'il y a 1400 zones de non-droit qui détiennent 6 millions de la population en otage, de toute religion, de toute race confondue. Et on ne fait rien. Et on est face à ce problème sans rien vouloir entreprendre. Alors, bon, vous pourrez voter les lois que vous voudrez. Vous pourrez faire les jetés de ballons, ou allumer des bougies, pleurer, faire des commémorations. Ben, tant qu'on sera dans ce registre-là, rien ne sera fait.
Claude Moniquet.
Alors, je suis... vous avez oublié une caractéristique du monde politique. Vous dites qu'il écoute, mais qu'il ne fait rien. Il y a une deuxième chose qui le caractérise, c'est qu'il a une vision à très courte vue. Et il a une manière un peu monomaniaque de traiter les choses. Pendant un moment, et c'est le cas depuis des années, on est focalisé sur le terrorisme islamiste. À raison, hein, c'est la principale menace. Oui. Mais par exemple, on voit dans certains pays que le terrorisme néo-nazi, même s'il est beaucoup moins prégnant, mais en Allemagne, ça fait quelques dizaines de morts en 20 ans, est un risque, mais qu'on ne prend pas en compte. On le prendra en compte le jour où il y aura eu un incident qui fera qu'on dira « oui, ben, on avait fait une allocation de moyens sur la menace principale. L'État semble incapable de gérer plusieurs dossiers sécuritaires à la fois. Et ça, c'est très, très inquiétant.
Vous êtes bien sur Sud Radio, il est presque 19h40, notre grand débat. Peut-on empêcher la libération des détenus radicalisés? Vous êtes pour le moment 85% à dire oui sur Twitter. On va revenir dans quelques instants, juste après une pause, on aura avec nous Julien qui est policier et qui va nous parler de ce que vivent les policiers à l'heure actuelle. Restez bien avec nous dans Les Vraies Voix.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Philippe Deveul et Lydia Guirousse, direction le 0-826-300-300. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Vous êtes policier et évidemment ce qui s'est passé à La Chapelle-sur-Erdre après Rambouillet, ça vous a touché?
Bah oui, évidemment, hein, ça me touche, hein, mais après, je veux dire, le scénario, on le connaît, hein, maintenant, c'est pratiquement, c'est hebdomadaire, hein, c'est toutes les semaines, ce genre d'acte. Le suspect, bah, sans surprise, il est connu des services de police, radicalisé, je crois, depuis 2016. Il est sorti de prison depuis peu, mais enfin, pour l'instant, rien ne m'étonne, c'est le profil classique, voilà, du terroriste c'est ce qui se passe depuis maintenant quelques années. Sauf que maintenant, voilà, alors je suis tout à fait d'accord avec l'avocat qui a pris la parole là, il y a quelques minutes. Tout à fait, il disait que c'est une question de volonté politique. C'est exactement ça. Ça fait, là, je ne sais plus combien de faits on a rien que ce mois-ci. On a le même scénario, donc des policiers, des policières qui sont grièvement blessés ou tués. Les condamnations, donc Gérald Darmanin qui se déplace, qui dit « ah oui, je condamne, je condamne », le président qui dit « ah oui, je condamne, je condamne ». Et puis on a le revers de la médaille, on a M. Dupond-Moretti qui nous annonce, quand un journaliste lui pose la question sur l'insécurité, qui ne répond pas à la question, qui dit qu'il n'y a pas de faille dans la justice, que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème dans notre pays, que la police, bon bah voilà, c'est tout ça c'est presque de l'imagination, hein, ça relève de l'imagination. Malheureusement, tout ça, on connaît. Hein,
restez avec nous, Julien. On va faire réagir Claude Moniquet. Claude Moniquet, je rappelle que vous êtes expert en contre-terrorisme et cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Julien, qui est policier, quand il dit « nous maintenant, c'est toutes les semaines »
Je lui réponds qu'il a raison. Je lui réponds qu'il a raison. Moi, ça fait une quarantaine d'années que je suis ces problèmes de différentes manières. Entre autres pendant 20 ans dans un service spécialisé en France. Et depuis 40 ans, je n'ai vu la situation faire qu'une chose, se dégrader. Je veux dire, on a, là où on avait quelques menaces qui étaient quand même relativement circonscrites, même s'ils étaient graves, dans les années 80, il y a 40 ans, aujourd'hui, on a effectivement un réservoir de plusieurs milliers de radicalisés en France qui sont dangereux, pour ne parler que des islamistes, plus des gens, plus à l'extrême gauche des Black Blocs, plus des milieux néo-nazis qui un jour ou l'autre vont se réveiller, vont nous faire mal. Je veux dire, et effectivement, ça se dégrade. Et ça va continuer à se dégrader parce que l'évolution de la société, entre autres ce qui s'est passé depuis,
depuis un peu plus d'un an maintenant avec les confinements et la destruction sociale que ça va amener, ne peut que provoquer de la violence. Et face à ça, effectivement, l'État semble, on va être gentil, l'État semble timide.
Philippe Bilger.
Claude Moniquet, je reviens un peu à la charge. J'indiquais tout à l'heure que ce crime terroriste, c'est à la fois la consécration, si j'ose dire, de défaillance de la justice ordinaire avec l'inexécution des peines ou le laxisme absolu de la structure pénitentiaire, mais j'évoquais la criminalité particulière qu'est l'islamisme. Et vous l'avez en quelque sorte noyé dans la criminalité générale. Pour moi, je vous interrogeais sur le point de savoir si elle ne devait pas être une criminalité totalement à part, assujettie à un statut spécial. Elle n'a rien à voir avec les braquages, elle n'a rien à voir avec les autres criminalités, puisque, encore une fois, elle profite de l'état de droit ordinaire et elle n'a qu'une envie, c'est de recommencer, ce qui n'est pas le cas des criminels ordinaires, même si, quand ils sont sortis de la prison, ils ont tendance à céder à leurs penchants. Donc, qu'est-ce que vous pensez d'un statut spécial pour cette criminalité-là ?
Claude Moniquet.
Alors, si vous avez compris ce que vous avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Je pensais avoir clairement fait la différence entre une délinquance générale, quelle que soit sa gravité, et deux formes de criminalité que je mets à part, qui sont d'une part le crime organisé. Je ne parle pas d'une bande dans un quartier, je parle du crime organisé transnational de type mafieux, qui est un véritable, enfin un énorme problème, et le terrorisme sous toutes ses formes. Ces deux formes de criminalité, le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité organisée transnationale de type mafieux, relèvent effectivement, à mon avis, d'une législation spéciale, d'ailleurs, qui existe en partie. On a sur le terrorisme les cours d'assises spécialement constituées.
Donc Je les mettrai pas ensemble. Il y en a une qui m'apparaît infiniment plus grave que l'autre, parce que la première, elle est gravissime, mais encore une fois, ces gens-là, parfois, laissent penser qu'ils pourraient s'arrêter.
Mais ça, je ne pense pas, parce que... je vais m'arrêter une seconde, ce n'est pas le sujet du jour, mais au crime organisé transnational mafieux, regardons ce qui se passe en Italie, qui est une grande démocratie que nous connaissons, où la criminalité organisée a totalement corrompu, pénétré l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques, la justice, des avocats, malheureusement, des journalistes, sont entièrement aux mains des mafias. Et donc, ça fausse tout, ça fausse le jeu économique, sans compter, par ailleurs, c'est moins visible que la criminalité terroriste, on est bien d'accord, parce qu'il n'y a pas 100 morts en une fois, sans compter les milliers de gens qui meurent parce qu'ils sont victimes d'un trafic de drogue, d'un trafic d'êtres humains, etc. Donc, je ne pense pas qu'il faut minimiser la criminalité organisée. Et je crois vraiment que les deux sont des menaces fondamentales pour nos sociétés. Il y en a une qui est plus visible et plus sanglante. À la rigueur, je pense même que peut-être qu'elle est moins en possibilité de mettre à mal l'État. Elle fait mal, elle tue, mais le terrorisme islamiste ne gagnera pas contre l'État.
Il y a quand même un danger. Rappelons-nous qu'il y a eu un attentat à la préfecture de police par une personne qui était de la préfecture de police de Paris. Il y avait eu un rapport de M. Urvoas, à l'époque garde des Sceaux, qui avait indiqué qu'il y avait une infiltration aussi islamiste dans les services de police et parfois dans l'armée. Ça s'était su et très vite, ce rapport avait été étouffé. Donc, il faut quand même rester extrêmement vigilant. Moi, je pense que le danger, il est extrêmement important et ils sont très sournois et capables d'un infiltration.
Je ne crois pas avoir dit à un seul moment qu'il ne fallait pas rester vigilant.
Non, alors je vous écoute, mais là, je ne suis pas vraiment en conformité avec ce que vous dites, parce que vous parlez du danger des néo-nazis. Ok, mais quelles sont les menaces nazies sur notre territoire national par rapport à l'islamisation, la volonté de l'islamisation du pays avec le réseau des frères musulmans qui sont propres sur eux et qui ont parole dans les médias, dans la société, avec une alliance des réseaux terroristes comme Daesh, Acme ou
Al-Qaïda,
et qui ont une vision stratégique
d'islamisation du pays. Et ils nous ont déclaré la guerre, et nous leur faisons la guerre. Et notre politique, c'est la politique de l'huître. On est fort à l'extérieur et on est faible à l'intérieur. Tant qu'on n'a pas une vision militaire de la chose, on ne pourra pas combattre ce mal.
Le mot de la fin, Claude Moniquet, en une petite minute.
Alors, en une petite minute, je pense que... Alors, je serais très triste qu'on pense que je minimise le danger islamiste, parce que ça fait quand même des années que je m'en occupe, et ce n'est pas le cas. Je pense effectivement qu'il faut s'attaquer à l'idéologie, mais qu'il ne faut pas... Enfin, s'attaquer de manière ferme à l'idéologie islamiste, mais qu'il ne faut pas négliger d'autres menaces qui, demain... Je vous rappelle que l'extrême droite en Italie, la guerre de Bologne, c'est 80 morts. C'est quand même, c'est autant qu'à Nice. Alors, c'est une fois, et effectivement, ce sont des milieux qui sont beaucoup plus faciles à pénétrer, à surveiller par la police et les services de renseignement que l'islamisme, ce qui minimise leurs risques, on est bien d'accord, mais le risque existe, comme il existe sans doute aussi, mais moins aujourd'hui, à l'extrême-gauche.
Merci beaucoup Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme et cofondateur du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Verdict sur Merci. Twitter, vous avez beaucoup voté. Le grand débat à La Chapelle-sur-Erdre, peut-on empêcher la libération d'un détenu radicalisé? Vous avez été 86% à dire oui. Merci aux Vraies Voix. Merci Philippe Bilger. Merci Lydia Guirous. Merci Philippe Deveul. Dans merci. Quelques instants, les Vraies Voix qui font bouger la France, ça roule. Bonsoir Pierre Chasseret.
Salut Philippe, bonsoir à tous.
Vous êtes un peu les Satanas et Diabolos de Sud Radio le vendredi soir avec Jean-Marie Bordry. Je ne dis pas lequel est le Satanas, lequel est Diabolo. Quel est le menu du soir?
Ah, c'est encore Jean-Marie, ça. Tu vas jouer le méchant en tout cas. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez tous ce qu'est une ZFE?
Une zone faible émission.
Ah, j'en vois, et ben voilà. 1 sur 3, tu sais, en studio. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que les statistiques sont justes pour une fois, puisque 60% des Français ignorent ce qu'est une ZFE, et pourtant ce sont les zones à faible émission dans lesquelles votre voiture ne va sans doute plus avoir le droit de rouler. On va vous poser une question aujourd'hui. Supprimer le diesel, est-il justifié? Ensuite, on passera sur la voiture de collection avec une possibilité. Est-ce que ça vous dirait, Philippe, de louer ensemble un petit véhicule de collection pour aller sur les routes de France?
Ah, ouais. Une Volvo mal, 1800, hein. Celle du Saint.
Pas mal. Bon, elle va nous coûter un peu en carburant, mais on va être bien dedans. Eh bien, on vous parlera aussi de cette possibilité. Et je vais terminer avec un sujet avec Jean-Marie qui va beaucoup vous plaire. On connaît la route du Rhum. Ah ouais, ça, je sais que Philippe David la connaît. Mais connaît-il la route du poisson?
Non.
Eh bien, on en parlera dans...
Je connais.
Voilà. Lydia Guirous connaît.
Je vois très bien ce que c'est.
Eh bien, c'est avec vous à partir de 19h sur Sud Radio et Jean-Marie Bordry.
Le réseau immobilier Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien, présent.
Sud Radio, Osez Investir.
Bernard Cadeau, vous êtes le consultant logement d'Osez Investir et vous nous emmenez cette semaine du côté de Saujon, à proximité de Royan, ville de Charente-Maritime, dotée de 18 500 habitants.
Oui Thomas, nous recevons Alison Nau, présidente du groupement local Orpi et responsable de l'agence Orpi Saint-Onge Immobilier à Saujon.
Bonjour Alison Nau.
Comment se porte le marché immobilier à Saujon?
Nous avons un marché qui, depuis le début de l'année, est très dynamique, a un nombre de ventes important, une tension qui est plutôt favorable aux vendeurs, puisqu'il y a une forte demande et peu de biens sur le marché. Donc, tous les biens qui arrivent sur le marché se vendent très rapidement et la plupart sans négociation.
Qui pousse la porte de votre agence en temps normal?
Alors, en temps normal, notre clientèle est principalement composée de jeunes retraités du nord de la France et notamment des Franciliens qui cherchent à se rapprocher du bord de mer.
Et quelle est la tendance sur les prix dans votre ville?
Alors, on a une forte augmentation des prix liée à la tension du marché. On a pu constater sur les deux dernières années une augmentation de l'ordre de 25%. Par exemple, donc des clients qui avaient acheté un pavillon de 100 mètres carrés, 200 000 euros en 2018, l'ont revendu récemment, donc 250 000 euros net vendeur.
Avez-vous un ultime conseil à donner à nos auditeurs qui voudraient investir dans votre ville?
Eh bien, n'hésitez pas, nous avons... tout ce qu'il faut pour vous, des commerces, les services médicaux, la proximité du bord de mer. N'hésitez pas à acheter un bien à rénover, qui sont la plupart délaissés par les clients retraités qui cherchent du clé en main. Voilà, un espoir de plus-value sur les biens à rénover.
Merci Alison Nau d'être passée du côté d'Osez Investir. Et je rappelle que vous êtes la présidente du groupement local Orpi et la responsable de l'agence Orpi Saint-Onge-Imo à Saujon, à proximité de Royan. Quant à vous, mon cher Bernard, je vous dis à la semaine prochaine pour mettre une nouvelle ville à l'honneur.
Sud Radio, Osez Investir.
Avec le réseau immobilier Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.